Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Pour cette deuxième émission sur les Borgia, Guy Le Tieck, historien moderniste, professeur d'histoire moderne à l'université d'Aix-Marseille et auteur du livre « Les Borgia, enquête historique » aux éditions Talendier, nous conduit au moment où le cardinal Rodrigue Borgia devient le pape Alexandre VI. Guy Le Tieck, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre visite à Canal Académie. Donc Innocent VIII meurt le 25 juillet 1492, le conclave s'ouvre en août suivant, et c'est le premier qui s'est tenu à la chapelle Sixtine, ai-je lu dans votre livre.
Exactement, parce que la chapelle Sixtine donc, a été édifiée sous le prédécesseur d'Innocent VIII, Sixte IV, d'où son nom, et le conclave qui a élu Innocent VIII s'est tenu, en souvenir, dans une autre partie du palais, mais absolument pas dans la chapelle.
Donc ce conclave se conclut par l'élection dans l'unanimité du second pape Borgia. Alors d'abord, pourquoi a-t-il choisi de s'appeler Alexandre ? Et parlez-nous de ce prince de la Renaissance.
Alors, un mot peut-être sur le conclave pour en comprendre l'issue, cette belle unanimité qui peut surprendre peut-être vos auditeurs. Lorsque, vous savez, il y a ce dicton romain très savoureux qui, entre pape au conclave, en sort cardinal. À savoir que les favoris ont rarement leur chance. Et comme la plupart des conclaves, nous dirons du temps, les négociations ont été très serrées et rudes dans les semaines, voire les mois, sinon les années qui ont précédé. En effet, Innocent VIII est un souverain pontife très vite malade, et donc l'on songe très vite à cette succession. Et Alexandre VI, qui est sexagénaire et il vient de faire 61 ans, estime que son tour est enfin venu pour accéder au trône de Saint-Pierre. Et l'un des hommes clés pour former une majorité qui lui soit favorable, c'est le fastueux cardinal de la maison des Sforza, la maison milanaise, Ascanio Sforza. Et l'un des accords essentiels a été donc l'entente entre le cardinal Rodrigue et Ascanio Sforza avant même le conclave. Lorsque ce conclave s'ouvre, heureusement pour Rodrigue, par rapport au dicton, il ne fait pas figure de favori, mais il a pris, je dirais, des précautions nécessaires et des prélats qui auraient pu constituer de magnifiques papes, peut-être, au regard des réformes dont l'Église avait tant besoin, eh bien, ont été desservis par, je dirais, toutes sortes d'intérêts, à commencer par le cardinal Carafa de Naples, dont le souverain napolitain était un des principaux adversaires, c'est dire. Et donc, Rodrigue, avec sa grande habileté politique, obtient un nombre de voix suffisant, une très courte majorité, grâce à son entente avec Ascanio Sforza, entente qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui était une pratique somme toute assez répandue, mais taxée de simonie, c'est-à-dire qu'il a littéralement acheté son élection.
Il ne devait pas être le seul,
pas
le premier.
Il n'était pas le seul, ça n'enlève rien. Mais l'historien n'est pas en position de juge, on est bien d'accord. Et pour les termes de l'achat de ses voix, des termes somptueux, puisqu'il cédait sa fonction de vice-chancelier, son palais de vice-chancelier, et sans doute une très très belle demeure qui était sur les bords du Tibre, un palais de plaisance ou de loisirs qu'il avait, vers Ripetta, à cet Ascanio Sforza. Le résultat, effectivement, il obtient une très courte majorité grâce surtout à la voix qui manquait un vieux cardinal vénitien qu'on a réussi à circonvenir, s'il a bien compris ce dont il s'agissait, semble-t-il. Et donc, il est élu avec cette très courte majorité. Et pourquoi l'unanimité ? Eh bien, les cardinaux sont tout de même cohérents. Et comme il avait donc ses nouvelles voix, les autres cardinaux ont décidé de lui donner leur voix. Et il choisit donc de s'appeler Alexander, quand le doyen des cardinaux lui demande quel nom il choisit. Sans doute, on n'a pas la certitude, en l'honneur du pape Alexandre III, et c'est très important cela si c'est bien le cas, puisqu'il a été l'un des premiers grands partisans de cette doctrine politique très favorable à la papauté, celle de la théocratie pontificale. Non pas donc en l'honneur d'Alexandre le Grand, bien sûr, mais en l'honneur de son prédécesseur de l'époque médiévale.
La théocratie pontificale, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu tout ce que ça peut impliquer comme politique ?
Alors, je dirais qu'il y a presque deux théocraties pontificales. La théorie traditionnelle qui a été en vigueur au Moyen-Âge, celle dite de la théorie des deux glaives, en fait, où les juristes canonistes favorables, bien sûr, à la papauté, présentaient les pouvoirs spirituels et temporels comme deux glaives détenus par le pape, qui choisissait de confier le glaive dans l'exercice du pouvoir temporel au premier souverain d'Europe, l'empereur. Le pape se réservant, bien sûr, le glaive spirituel. Alexandre VI, qui s'est beaucoup intéressé à cette théorie, qui a été le dédicataire comme vice-chancelier d'œuvres portant sur cette théocratie pontificale, Alexandre VI a une conception bien plus moderne d'une théocratie pontificale revisitée et qui est celle, finalement, de la toute-puissance du souverain pontife à l'échelle du monde. L'empereur n'est qu'un souverain parmi d'autres. Ceci permet de comprendre, notamment, comment, ça peut sembler aberrant pour des esprits contemporains, comment le pape a pu arbitrer le conflit relatif à la découverte du Nouveau Monde entre Espagnols et Portugais.
Et comment c'est lui qui a décidé
exactement, la délimitation. Enfin, ce n'est pas lui, bien sûr, qui a fixé la ligne, mais qui est cette instance.
L'arbitre suprême.
C'est l'arbitre suprême, faute d'instance internationale, bien évidemment. Mais s'il peut tenir de façon cohérente et crédible ce rôle d'arbitre suprême, c'est bien précisément grâce aussi à la vitalité de cette théocratie pontificale qui place le pape une nouvelle fois au-dessus des souverains temporels de son temps.
Parlons de ce prince de la Renaissance. Vous dites dans votre livre qu'il a reçu la meilleure éducation humaniste et qu'il était très ouvert aux arts.
Oui, il faut voir pour ne pas commettre d'anachronisme et juger trop vite les excès ou éventuels débordements de ce pape. Il faut voir ces papes, non seulement de la Renaissance, mais d'avant la réforme catholique et d'avant le grand concile de Trente, comme de véritables princes du temps. Les princes du temps ont une cour. Les princes du temps ont des musiciens, des bouffons.
Il y a un faste à tenir pour la politique.
Pour la politique, pour les nécessités, une cour se doit de rayonner. Il y a une véritable compétition à l'échelle de l'Europe quant au faste des cours. Et le pape se devra d'avoir, l'une des chapelles musicales les plus fastueuses, sinon la première d'Occident. De même, s'il peut rattacher à sa cour, ce sera plus le cas certes de ses successeurs immédiats, Jules II et Léon X, mais tel ou tel artiste, cela procède véritablement, comme le théorisera Castiglione un peu plus tard dans le livre du courtisan, parlant du prince, cela procède des devoirs d'un prince de la Renaissance. Comme dit Castiglione, qui a connu ces cours-là, y compris celle de la cour pontificale, un prince se doit, par exemple, de bâtir. Bon, nous avons une vision, je dirais, bien plus spirituelle, on dira des fonctions pastorales d'un pape, mais un pape, à la Renaissance, est à la fois un pasteur, certes, de l'Église, mais aussi un prince temporel. En l'occurrence, la théocratie lui permettra d'être véritablement ce qu'on a pu appeler un pape roi. Et depuis au moins Pie II, les papes sont pleinement conscients que pour sauver la papauté à l'échelle internationale, dans la grande compétition de l'après-guerre de 100 ans, pour sauver la papauté, il faut lui donner une assise territoriale comme toutes les autres principautés du temps. Et pour cela, il faut transformer ce qui n'est que le patrimoine de Saint-Pierre en une principauté moderne, avec une administration plus efficiente. Et voilà pourquoi Alexandre VI va être aussi attaché à la reconquête et le retour dans l'obéissance de parties du territoire des États pontificaux qui s'étaient quelque peu éloignés ou distraits de cette autorité. La reconquête de la Romagne par César, ce n'est pas seulement tailler une principauté séculière pour les Borgia, non, c'est revenir à l'obéissance, une partie des États du pape.
Oui, c'est comme les rois de France avec les grands féodaux.
Et en quelque
sorte. C'était une forme de construction.
Et en créant, non pas de nouvelles institutions, mais, si vous voulez, en jouant très subtilement sur les modalités, je dirais, de domination de ces États, en les soumettant, en veillant tout simplement à ce que le sens ou autre qu'ils doivent à la papauté rentre plus régulièrement, en mettant sous le gouvernement direct du pape de nouvelles administrations financières. Bon, cette dimension de prince de la Renaissance...
Une dimension politique qui nous amène vers la dimension de mécène.
Voilà, cette dimension de prince de la Renaissance, elle comprend aussi, tout aussi naturellement, une dimension de mécène. Ce mécénat, il n'est pas réservé, dans la vie de Rodrigue Borgia, il n'est pas le seul fait, du moins, de son pontificat. Il est déjà mécène comme cardinal, comme tous les grands cardinaux de la Rome du temps. C'est comme cardinal, notamment, qu'il va avoir placé sous sa protection l'embellissement de la basilique Sainte-Marie-Majeure. C'est comme cardinal encore qu'il passe commande à quelqu'un qui est un peu oublié, mais qui commence à être bien redécouvert, un sculpteur du temps, Andrea Bregno, qui est le sculpteur de ce groupe de cardinaux en vue et qui sont parmi les plus riches. Donc, Rodrigo Borgia, Ascanio Sforza ou le français Guillaume d'Estouteville, voilà, si vous voulez, les grands clients des artistes romains du temps. C'est également, comme cardinal encore, qu'il s'intéresse à l'une des églises de Rome où, qui fait l'objet de nombre de mécénats cardinalis, Sainte-Marie du Peuple, Santa Maria del Popolo, où Pinturicchio déjà va, non pas à la demande de Rodrigo Borgia, mais d'autres cardinaux, réaliser ses premiers travaux. Et une fois devenu pape, il a bien sûr d'autres moyens. Et immédiatement, il est élu donc en août 1492, immédiatement il passe commande. Il rencontre si bien le goût des cardinaux, Pinturicchio, il lui passe commande d'un appartement Borgia, ce qui sera appelé l'appartement Borgia. Alors ce n'est pas, là encore, on peut penser de façon caricaturale, bien sûr, un pape dépensier qui, je dirais, se fait aménager des appartements privés, absolument pas. C'est un appartement de réception.
C'est de la propagande.
Ce sera de la propagande, de la magnifique propagande, puisque ces appartements privés, qui sont au même étage donc, du palais du Vatican, celui qui a continué à édifier son prédécesseur Nicolas V, ces appartements privés sont très dépouillés. L'appartement de réception, là, en fait, est constitué de 6 salles commandées dont on commande la décoration à Pinturicchio, enfilade de salles qui se termine dans la tour Borgia. Et tout cela est achevé en 2 années, 1492-1494.
Et pourtant, c'est des peintures monumentales.
Et ce sont des peintures monumentales. Il y a là, sinon un coup de génie, du moins une idée tout à fait séduisante et très neuve, qui n'est pas sans doute le seul fait d'Alexandre VI, bien sûr. Il a des humanistes à ses côtés, notamment un fameux dominicain, Agnus de Viterbe, connu pour être aussi un faussaire, qui ont dû concevoir ce grand cycle de peinture commandé à Pinturicchio. Il faut voir que pour le visiteur, ambassadeur, hôte de marque, lorsqu'il pénètre dans l'appartement Borgia, c'est d'abord la salle des pontifes. La salle des pontifes, même si la décoration en a été perdue, elle magnifiait déjà l'histoire de la papauté par la figuration d'un certain nombre de papes, hélas on ignore lesquels. Et ensuite, des salles à l'unité thématique, la salle dans la plus belle, si vous voulez, la salle des saints. La salle des saints, c'est celle qui comporte la fameuse grande scène qu'est la dispute de Sainte-Catherine. Fresque monumentale, hein, en lunettes bien sûr, mais de dimension imposante. Et des historiens d'art ont suggéré, de façon je trouve très convaincante, qu'elle servait de salle d'audience et de réception par Alexandre VI, qui aurait fait figurer son trône. Et le trône aurait été apposé donc sur la paroi de cette même dispute, et il faut imaginer l'impression que devait donner ce pontife, très soucieux du cérémonial et de la majesté pontificale, un pontife donc sur son trône, couronné de la tiare, je ne dirais pas qu'il la lâchait rarement, mais pour toutes les cérémonies, bien sûr, elle est présente, et derrière lui...
Dans son blason, le bœuf, le taureau.
De façon très subtile, effectivement, tout en haut d'un arc de triomphe, qui reprend l'un des arcs de triomphe romains, le bœuf, Apis, en stuc doré, c'est-à-dire sortant même de la paroi. Et en dessous, en haut de l'arc de triomphe, une inscription à celui qui cultive la paix. Et l'on a là cette glorification bon, discrète, ce n'est pas son propre portrait, bien sûr, qui est figuré, mais il y a là une façon de magnifier ce souverain pontife. Il faut voir aussi le trône de l'empereur dans cette dispute. Donc un luxe d'or qui a été critiqué par la suite, mais qui servait précisément ses fins de propagande.
C'est plus le bœuf Apis que le taureau espagnol.
On joue sur les deux, bien évidemment. Comme dans les armes Borgia, il y a le bœuf. Aussitôt, si vous voulez, les conseillers humanistes se sont mis à chercher ce qui pouvait être vanté, valorisé dans l'héritage, notamment antique. Et l'on a eu l'idée de restaurer cette figure d'Apis. Et l'une des salles comporte à son plafond toute l'histoire du grand mythe d'Isis et d'Osiris, Osiris, donc comme on sait, démembré, et qui ressuscite sous la forme du taureau Apis. Et il faut voir là aussi toute l'ouverture et ce qu'on dirait de nos jours, façon anachronique encore, la tolérance de cette culture qui, en plein Vatican, au milieu des appartements pontificaux, célèbre la mythologie égyptienne, mais bien sûr à des fins propagandistes très subtiles, puisque dans ce bœuf Apis, bien sûr, il y a une allusion directe au taureau des Borgia. Mais les détracteurs, mais je n'ai pas trouvé de traces, pouvaient sans doute aussi imaginer que loin d'être ce bœuf à pisse, c'était peut-être le veau d'or purement et simplement qui était ainsi figuré. Mais bon.
Alexandre Borgia avait aussi comme caractéristique d'avoir des idées libérales. Il a fait preuve de libéralisme.
Effectivement, on comprend assez mal, tellement les Borgia sont pris dans ces strates de mythes, de légendes, et le dernier rapport, c'est le 19e siècle, en fait, qui a rajouté encore du malentendu. On comprend assez mal comment ce pape, par exemple, a toujours toléré la libre expression dans Rome. Et c'est sous le pontificat d'Alexandre VI qu'apparaît notamment une statue qui est un espace de libre expression, le fameux Pasquino, Pasquin, où l'on peut, anonymement, certes, apposer des libelles, qui ne ménagent en général guère la papauté, humoristiques, sarcastiques. Mais Alexandre VI a pris le parti, il le dit à l'un des ambassadeurs italiens à sa cour, il dit que César ne tolère pas cette libre expression et qu'il a beau lui expliquer que c'est pourtant l'usage à Rome, que l'on parle librement et que lui, cela l'indiffère. En fait, il déplore que César ainsi prenne si vite la mouche, en quelque sorte.
Oui, César n'avait pas la sagesse politique de son père et puis il n'avait pas le même âge.
Il n'avait peut-être pas le même âge, mais surtout, je crois qu'Alexandre VI, lui, a clairement compris que s'il y a bien un combat à gagner pour la postérité, eh bien, il avait les moyens d'y œuvrer par des moyens vraiment pérennes, aussi pérennes que la pierre, le mécénat artistique, la frappe de médaille, des choses qui ne passent pas alors que les libelles passent. Bon, certains historiens au 19e ont pu lui reprocher cette négligence parce qu'effectivement, une partie de l'image des Borgia s'est jouée, mais on le verra plus tard, dans cette formidable floraison de pamphlets. Mais encore une fois, Alexandre VI, lui, pensait miser sur les bons médias, en quelque sorte, qui étaient des médias immortels comme la peinture, la construction, enfin les réaménagements du château Saint-Ange ou encore les frappes de médailles régulières, si vous voulez, à sa gloire. Pour cela, l'un des grands instruments, c'est toujours Pinturi, que non seulement au Vatican même, mais aussi au château Saint-Ange. Et on a hélas perdu un cycle de fresques qui devait être, je pense, extraordinaire et qui était dans l'appartement, la loggia qu'il s'était fait bâtir sur les jardins Saint-Ange. Et ces fresques narraient le séjour de Charles VIII à Rome, lors de ce début de guerre d'Italie, en janvier 1495, et la série d'humiliations feutrées qu'Alexandre VI a imposées à ce roi de France. Et je pense que le spectateur, à commencer par le pape lui-même, ont dû beaucoup goûter.
Se sont amusés,
beaucoup.
Parce qu'il y avait beaucoup de subtilités,
oui.
Que ces Français devaient bien mériter, c'est tout ce mépris caché.
On a quelques témoignages grâce à l'une des grandes sources du règne, le journal du cérémoniaire, le Strasbourgeois Johannes Burckhardt, qui, en tant que cérémoniaire, a vu un certain nombre de pontifes se succéder sur le trône de Saint-Pierre. Il n'était guère favorable à Alexandre VI, mais grâce à lui, l'on sait par exemple quel était l'étonnement d'un Charles VIII lors de la messe pontificale qu'a célébrée Alexandre VI à la demande du roi de France pour la Saint-Sébastien, si je ne m'abuse. Et Charles VIII demande constamment au cérémoniaire, au cours de la cérémonie, mais pourquoi fait-il ceci, pourquoi fait-il cela? Mais là encore, au cœur même de la liturgie, la plus sacrée qui soit, et au grand dôme du cérémoniaire, Alexandre VI célèbre la messe non pas avec la mitre, si j'ose dire réglementaire, mais la tiare qu'il tient à porter pendant la messe, chose absolument inédite, et le cérémoniaire est fou, non pas de sacrilège, mais du moins de cette entorse au protocole.
Merci beaucoup Guy Letiec. On va retrouver sans doute ce cérémoniaire Johannes Burckhardt dans la prochaine émission, puisque le mythe sera peut-être aussi le fait de ce que ce cérémoniaire a écrit. Donc à bientôt.
À bientôt.